Le chapitre 25 de saint Matthieu est constitué aussi de la parabole des talents. Alors, les talents, c'était, comme aujourd'hui, une mesure d'argent, donc comme aujourd'hui notre euro ou avant notre franc, c'était des talents. On peut remarquer que le maître se félicite de la fructification des talents. Celui qui en a reçu 5, il en fait fructifier 5 autres. Réaction du maître après son long voyage et son retour. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre de la joie de ton Seigneur. Pour celui qui avait 2 talents, et qui en fait fructifier 2 autres, 4, le double, comme le premier, exactement les mêmes paroles, ni plus ni moins, mais c'est un max. Voilà, tu as été très bien, serviteur bon et fidèle, donc que ce soit pour 5 ou 2 talents, dans la mesure où ils ont été fructifiés, c'est très bien. Ça nous fait déjà un peu sortir de nos mondanités qui, souvent, notre regard est attiré par ce qui est important, ce qui est grand selon le monde. Pour le maître, ce qui compte, c'est que ce soit fructifié. Et donc 2 ou 5, mais c'est très bien, c'est très bien. Voilà, il y a une sorte d'égalité de traitement. Pour celui qui en a 5 ou celui qui en a 2, ce qui compte, c'est qu'il ait eu confiance, qu'il ait fait fructifier, qu'il se donne, qu'il fasse vivre autour de lui, qu'il soit dans cette dynamique où il accueille le don pour le démultiplier et le partager. Celui qui n'a reçu qu'un talent était appelé visiblement à le faire fructifier lui aussi. Et s'il en avait fait sortir un autre talent, certainement le Seigneur lui aurait dit « très bien, comme aux autres ». Parce que chacun reçoit selon ses capacités, selon la parabole, mais ce qui compte, ce n'est pas le nombre, c'est la dynamique. Bon, ce serviteur est allé cacher le talent dans la terre, donc il n'a pas pu fructifier. Mais ce qui est mis, ce qui est pointé du doigt par cette parabole, ce n'est pas le nombre de talents. Ce n'est pas la distribution de l'image très bien pour les bons points. Ce n'est pas ça. Ce que Matthieu pointe du doigt, c'est en fait l'image que ce troisième serviteur, l'image que ce troisième serviteur se fait de Dieu. C'est ça le problème, c'est le vrai problème, l'image de Dieu. Il lui répond en effet, il lui dit, « Mais Seigneur, je savais que tu es un homme dur, Seigneur. » Ah, du coup, ça concerne ce qui se passe là-haut dans les cieux. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, et c'est pour ça que j'ai eu peur et que j'ai caché le talent. » Parce que tu es un homme dur. Je me suis dit, il faut que je sois réglo et il ne faut pas que je risque de manquer de lui rendre ce qui lui appartient parce que c'est à lui. C'est ça qui est en question. C'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. Il y a, vous le savez bien, dans ces premiers temps de l'Église, il y avait les évangiles canoniques tels qu'on les connaît aujourd'hui, Matthieu, Luc, Marc, Jean. Et il y avait d'autres évangiles aussi, produits par la réflexion, la tradition, qui était arrivée dans d'autres communautés. On a en effet les évangiles apocryphes, le proto-évangile de Saint-Jacques, l'évangile de Saint-Philippe, l'évangile de Thomas, des évangiles qui ont été aussi fabriqués en Égypte. Alors pourquoi est-ce que ces évangiles n'ont pas été retenus? Eh bien parce qu'ils ne livraient pas le vrai Jésus. Et c'est pour cela que, dès le premier siècle, la grande Église n'a retenu que ces quatre évangiles. Mais, quelquefois, il y a des pépites dans ces autres évangiles apocryphes. Il y a des pépites. Et il y en a un qui dit cela, alors qu'il réinterprète ce passage, et il dit le troisième serviteur. Alors, pour les deux premiers serviteurs, il est d'accord, hein. Parce que comme Matthieu, Marc et Luc, ils donnent pas toujours le même texte, tout simplement parce que ces traditions orales et un peu écrites sont réfléchies, retravaillées, méditées, actualisées par les communautés de Matthieu, de Luc, de Marc. C'est pour ça qu'on a des textes sensiblement différents. Et là, dans cet évangile apocryphe, c'est écrit le premier serviteur, 5 plus 5, 10, ok, très bien. Le deuxième serviteur, 2 plus 2, 4, très bien, ok, merci. Le dernier serviteur, il a une autre réaction qu'ici dans l'évangile de Saint Matthieu. Le maître lui dit, alors, t'en as fait quoi de ton talent? Alors il lui répond, tu sais, moi je reviens aussi d'un voyage, hein, et j'ai fait fructifier mon talent. Ah, j'en avais deux, mais j'en ai perdu un dans le voyage. Je l'ai perdu, ça arrive à tout le monde. Mais moi je crois que tu es miséricordieux, que tu es bon, que tu sauras faire la part des choses, Seigneur. Je l'ai perdu. Et le maître, selon cet évangile apocryphe, le maître, qui n'est pas dupe, sait bien que le troisième serviteur lui raconte je sais pas comment on dit à Marseille, des bobards. Mais le maître trouve ça pas mal, parce qu'il dit... Mais il a une belle image de Dieu. Il me dit que je suis miséricordieux. Il me dit que je suis bon. Il me dit que je sais passer là-dessus et que je l'accueillerai quand même dans mon royaume. Réaction du maître au troisième serviteur. Il lui dit, oh, très bien, serviteur, tu as perdu ton talent, mais tu crois que je t'aime. Et ça, c'est important. Entre dans la joie de ton serviteur. Ça montre en tout cas une chose intéressante, c'est que ce qui est en question dans cet évangile, c'est l'image de Dieu. Et c'est parce que ce serviteur a une image faussée de Dieu, et à cause de la distorsion de son image de Dieu, il a peur. Il le dit, j'ai peur, alors j'ai caché et je n'ai plus démultiplié le talent. L'autre, dans l'évangile apocryphe, n'a pas peur. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Et il dit, bon, allez, j'y crois, tu es bon. Et c'est à ce titre qu'il... En fait, il aurait pu démultiplier les talents, ce premier serviteur-là, ce troisième, s'il avait cru en la bonté de Dieu. Ça interroge notre image de Dieu. Et visiblement, l'image que nous nous faisons de Dieu a une incidence, un impact sur notre manière de vivre. Alors, quelle est notre image de Dieu? Est-ce que c'est une image qui nous bloque, une image qui nous fait peur et qui fait peur aux autres? C'est possible. Combien de fois, quand on interroge les athées d'aujourd'hui, ou les agnostiques, ou ceux qui ont laissé l'Église pour trouver une religiosité nouvelle sur Internet, souvent, ce qui est en question, c'est l'image qu'ils ont reçue de Dieu. Ils se disent athées, sans Dieu, hein, étymologiquement, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'image que des chrétiens leur ont donnée de Dieu. L'image d'un Dieu justicier, d'un Dieu qui torture, d'un Dieu intransigeant, d'un Dieu dur, ils ne peuvent pas la supporter. Du coup, je suis athée, je suis sans ce Dieu-là, je n'en veux pas. Quelle est l'image que nous nous faisons de Dieu et quelle est l'image que nous donnons de Dieu? C'est une vraie question. Et la Bible nous dirait, ne te fais pas d'image de Dieu, parce que chaque fois que nous la figeons, elle est déjà fausse et faussée. On n'a pas le droit de figer l'image de Dieu. Elle se renouvelle ou elle n'est pas. Et elle se renouvelle dans l'Esprit de Jésus, qui est l'Esprit trinitaire, l'Esprit relationnel de la Trinité. Donc, on n'a pas le droit de se faire même pas une image de l'autre, parce que l'autre évolue dans la relation avec nous. Donc, c'est un autre Dieu que celui que j'ai donné il y a un jour. Moi, je ne suis plus d'accord avec ce Dieu que j'ai donné, cette image que j'ai donnée il y a un an, que je vous ai proposée, même dans l'homélie. Je ne suis plus d'accord. Parce que cette image n'a pas le droit de se figer. Elle doit se renouveler parce qu'il est toujours plus grand que tout ce qu'on peut imaginer de lui. Il est toujours plus beau que tout ce qu'on peut imaginer de lui. Il est toujours plus plaisant que tout ce qu'on peut expérimenter du plaisir d'être avec lui. L'image de Dieu. Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Quelle est l'image que nous donnons de Dieu? Récemment, une paroissienne me disait, je n'en peux plus avec cette image de Dieu qui est genrée. Est-ce que Dieu est plus homme que femme? Père, fils, plus que mère, fille? Je lui disais non, mais elle me disait, mais quand même, admettez que pendant des siècles, on a fait entendre que dans la mesure où Dieu serait genré masculin, eh bien, c'est les hommes qui étaient destinés à dominer la société. Admettez. Et je dis, vous avez raison. Vous avez raison. Et il faut critiquer l'image genrée de Dieu. Comme la première lecture que nous avons entendue, c'est l'éloge de la femme. Hein? Bon, mais c'est daté. C'est daté. Jésus lui-même a fait une critique de l'image des femmes dans l'Ancien Testament. Quand il parlait avec la Samaritaine, il a surpris ses disciples qui se disaient « Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. » Donc ça montre que Jésus induit la critique même des Écritures. Parce que les images que nous nous faisons de Dieu, de l'homme et des femmes est datée. Et la manière de proposer la vie en Dieu de la part de Jésus, c'est une vie relationnelle où tout évolue. Et évidemment pas de manière relativiste, mais dans la profondeur. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, les Écritures nous invitent à nous poser une question. Quelle est l'image que je me fais de Dieu et quelle est l'image que je me fais des hommes et des femmes? Et ce qui est certain, c'est qu'elle est destinée à évoluer dans le sens de l'Évangile, de la liberté de l'Évangile et de l'amour qui est dans l'Évangile. Donc, nous n'y sommes pas, nous ne sommes pas arrivés au bout. Notre image de Dieu va évoluer et notre image de l'homme et de la femme va encore évoluer.